passer la fièvre, si on peut dire, de la période. Il va y avoir des vrais questionnements. Jusqu'où nos habitudes vont revenir ou pas? Et quels pourraient être les gestes barrières que nous pourrions avoir envers le retour de ces habitudes?
Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet.
Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode confiné du podcast des éclaireurs du numérique. C'est le deuxième épisode que l'on fait avec un principe simple, chacun chez soi, que vous commencez à connaître un petit peu tous maintenant. Et on a décidé pour ce 42e épisode de vous faire quelque chose qui soit plus une revue de presse qu'un épisode sur un thème comme on a l'habitude de le faire en général, parce qu'évidemment les informations, bon, on en a beaucoup, elles se bousculent, on est un peu toute la journée en train de regarder ce qui se passe et on va faire le tour de tout ça avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice.
Salut.
Ça va bien?
Très bien.
À J17, J18, je ne sais même plus, ça se passe encore bien pour toi, ça va?
Ça se passe bien, je suis dans des conditions plutôt confortables, on ne va pas se plaindre, je n'ai pas de gamin, c'est un atout phénoménal.
Dans ces périodes-là, avoir un chien est un truc plus positif et avoir un gamin est un truc plutôt embêtant. Là. Ça peut ne pas aider. Salut Damien.
Salut.
Bon, on ne dira pas la même chose. Toi, tu as un chien, toi?
Moi, j'ai pas de chien, mais j'ai une gamine. Ça se passe bien avec elle. Sinon, à part ça, en ce jeu samedi, ben écoutez, ça se passe plutôt pas mal, je trouve.
Bon, ben tant mieux. Tant mieux. Alors, on va parler de trois sujets. On va parler de Natixis, quand même, qui a fait vraiment parler de lui avec ce flash économie de Patrick Artus. Qui annonce un peu la fin du libéralisme et du capitalisme d'une certaine façon comme on l'a vu jusqu'à présent. Le grand retour d'Arnaud Montebourg, ce sera la vraie question qu'on se posera avec un gros point d'interrogation dans ce podcast. Et puis on parlera d'astroturfing. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous restez avec nous et on vous expliquera. Et ça se passe en Italie avec les Chinois. D'abord, un mot du flash économique Patrick Artus qui est sorti il y a quelques jours. Patrick Artus, hein, c'est quelqu'un qui est...
C'est le patron, on va dire, de l'analyse économique de Natixis, hein, voilà, pour faire simple.
Quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres depuis des années, qui a beaucoup publié, qui est quelqu'un qui a toujours remis en cause les abus du capitalisme, qui là vient de sortir donc quelque chose qui a fait vraiment parler de lui, parce que tout d'un coup, il remet carrément en cause le capitalisme néolibéral en disant que c'est la fin de toute cette histoire-là. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a reçu, dit-il en tout cas dans une discussion avec, je crois que c'est Libération, il a reçu beaucoup, beaucoup de félicitations et dit notamment de patrons de grands groupes européens qui m'ont dit, tiens, enfin, on peut parler de ça et de ces abus du néolibéralisme. Vous l'avez lu tous les deux, évidemment, cet article.
Complètement. Oui, c'est fantastique.
Ça, c'est troublant, c'est fabuleux.
Oui,
on n'aurait jamais pensé vivre ça, lire ça un jour quand même, hein, de la part d'un type chez Natixis.
On va dire qu'effectivement, Natixis, c'est pas vraiment, on peut pas vraiment on va dire sous-tendre une complicité avec la France insoumise, mais pour autant, il y a quand même des choses qui sont assez troublantes. Alors je dis LFI, mais ça pourrait être aussi RN, hein, on en parlait la semaine dernière d'ailleurs, puisque ce côté retour un peu plus déglobalisation, retour vers le local, versus le commerce international, une hausse à nouveau des dépenses publiques. On le voit d'ailleurs, hein, en 2020 versus 2008, les États européens vont dans le sens inverse de ce qu'ils avaient fait. Donc autrement dit, ils lâchent la bride sur les dépenses publiques. Le fait que l'État soit à nouveau interventionniste. Enfin, c'est des choses franchement, de prime abord, quand on lit ça, on se dit, mais quel est ce socialiste bontain qui a pu écrire une chose pareille? Et puis non, c'est Natixis sous le contrôle de Patrick Artus. C'est quand même hyper intéressant. À voir.
C'est le grand retour en force du keynésianisme, finalement, hein, qui revient par la grande porte avec cette crise.
En tout cas, c'est un signe, c'est plus qu'un signal faible sur le fait qu'il y a potentiellement la possibilité de passer à tout autre chose après le coronavirus. Après, ça pose quand même une question fondamentale, c'est on va malgré tout se retrouver d'ici un mois ou deux en sortie de crise. Et avec des gens qui sont les chantres de l'exact opposé, de la globalisation et de la mondialisation et du libéralisme. Donc ça paraît difficilement imaginable que tout d'un coup les mêmes personnes se mettent à faire un capitalisme plus humain, comme disait Bruno Le Maire. Ça impose quelque part un changement de gouvernement, un changement de personnel politique. C'est pas ceux qui nous ont menés dans cette impasse qui peuvent nous en sortir a priori.
En même temps, ils vont tous nous faire le coup du « on a changé », on se prépare à ça
à
aussi.
À ce point, non. À ce point, là, ce n'est pas un changement, c'est un revirement à 180 degrés.
Ah non, là, on ne change pas, on ne change pas le logiciel, on reformate le disque dur. Je veux dire, on part sur autre chose, là. Et très clairement, même si Macron est en train de nous faire un virage sur l'aile gauche, très sincèrement, il faut revoir les... Enfin, tu ne peux pas... partir dans ce sens-là sans revoir les fondamentaux. Et très clairement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plein de choses. Enfin, la crise actuelle montre les plaies béantes qui peuvent exister, en partant par le fait que, ah bah tiens, on voudrait développer des médicaments. Ah, c'est ballot, ils sont développés en Chine. Ah bah tiens, on voudrait peut-être récupérer de l'entraide entre les pays. Ah bah l'Europe, en fait, ça marche pas. Ah bah tiens, on constate que les Américains, sur le tarmac chinois, nous piquent des masques. Enfin, c'est quand même extraordinaire de voir ce qui est en train de se passer. Extraordinaire.
On fait la même chose, hein. Je sais pas si vous avez vu l'article de Mediapart, mais. Non seulement on pique aussi des masques de notre côté, mais on fournit Airbus avant les hôpitaux.
On les pique à l'Espagne, nous. Hein.
Il y a des choses absolument hallucinantes qui sont révélées par les masques, mais on va en découvrir d'autres avec les médicaments. Enfin, c'est effectivement la culture du flux tendu, du lean management, appliquée à tout et n'importe quoi, ça nous a mené dans une vraie catastrophe. Sans compter qu'on est en train de s'apercevoir que dans cette période de confinement, on est totalement dépendant de technologies américaines. Hein. L'éducation nationale, je ne sais pas comment on ferait s'il n'y avait pas Microsoft Teams à la rescousse ou des solutions de Google. On serait incapable d'assurer la moindre continuité sans ces solutions-là. Or, ce n'est pas non plus la mer à boire que d'imaginer qu'un État puisse avoir sa solution de vidéoconférence, c'est le minimum qui permette ne serait-ce de poser les bases d'un début de télétravail. Là on est en situation de perte de souveraineté, ça fait longtemps, hein, mais on se la prend vraiment au visage.
Damien.
Très clairement, d'un point de vue technologique, à la fois, moi je dirais qu'il y a des failles. Ces failles qui sont apparentes, c'est hyper intéressant parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent. Enfin, c'est des pistes pour pouvoir s'engouffrer dedans. Parce qu'on constate que finalement, il n'y a pas de solution parfaite et que justement, il y a nécessité d'avoir des solutions qui soient peut-être plus adaptées. Ne serait-ce que par exemple, je lisais aujourd'hui quelqu'un qui disait, mais vraiment, à part ça, est-ce qu'on peut avoir une vraie solution de cryptage de bout en bout, par exemple, sans passer par dans des solutions américaines ou chinoises? C'est une très bonne question. Donc, très clairement, on a ça qui apparaît. Et puis moi, ce qui me marque aussi, très clairement, c'est, comme on le disait tout à l'heure, je pense que les mentalités sont prêtes. Je pense qu'une idée peut être dans l'air du temps 10 ans, 20 ans avant qu'elle n'arrive à maturité, tant que les mentalités ne sont pas prêtes, son heure n'arrivera pas. Et là, je pense qu'il y a plein d'idées. Alors, on ne va pas rentrer dans le domaine économique, mais par exemple, ne serait-ce que, vous savez, le salaire à vie, ce genre de choses-là, la question du référendum on va dire populaire, ce genre de choses-là. Il y a plein d'idées qui étaient dans l'air du temps, mais dont on se demandait vraiment si ce n'était pas des gadgets un peu démocratiques. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des choses qui sont en train d'arriver à maturité? Je pense très clairement que après, une fois qu'on aura passé la fièvre, si on peut dire, de la période, il va y avoir des vrais questionnements. La question vraiment que je me pose, c'est jusqu'où nos habitudes vont revenir ou pas, et quels pourraient être les gestes barrières que nous pourrions avoir à envers le retour de ces habitudes.
Oui. À sujet des gestes barrières pour ne pas reprendre les mauvaises habitudes, je vais juste glisser un mot sur un texte qu'a publié Bruno Latour, hélas derrière un paywall, mais qui pose justement un cadre de réflexion qui demande à répondre à quelques questions, mais en accompagnant vers justement une volonté de se préparer intellectuellement à ne pas laisser reprendre les mauvaises habitudes, en les identifiant, en pesant les conséquences de leur disparition et en trouvant des solutions pour accompagner ceux qui seraient victimes de cette disparition, d'un secteur d'activité qu'on considère comme complètement inutile, tout un tas de choses. Typiquement, est-ce qu'il faut continuer, par exemple, à produire des SUV? C'est franchement pas sérieux. On pourrait se poser 1000 questions comme ça et développer pour les mois qui viennent vraiment des gestes barrières pour empêcher de reprendre ces mauvaises habitudes. J'ai trouvé l'initiative vraiment, vraiment intéressante. Et je vous invite à vraiment regarder le texte de Bruno Latour et à répondre à ces questions. C'est un très bon exercice.
Oui, et puis pour finir là-dessus, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a aujourd'hui, face à la crise économique, des entreprises qui sont en train de se réinventer. Très clairement, des boîtes qui commencent à créer, par exemple, ou à produire des appareils respiratoires. Peugeot, Ford, vous avez... la Dyson qui commence à réfléchir à produire d'autres choses que ce qu'ils produisent aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'à la sortie de la crise, ils vont faire la même chose, mais c'est la preuve aussi qu'ils sont obligés d'avoir une sorte de flexibilité industrielle par rapport à la crise actuelle. Donc pourquoi demain ne pas imaginer que demain ils fassent autre chose et qu'ils arrêtent de faire du SUV pour aller faire autre chose. Il y a des vrais questionnements, je pense que vraiment ça ne laissera personne intact.
Bah déjà, ils ont commencé à faire des respirateurs, je crois, Dyson. Hein,
donc, oui, tout à fait, je comprends. 10 000 appareils vont être fournis au NHS anglais, donc la sécurité sociale, c'est un système de santé anglais. Et très clairement, c'est bien la preuve que aujourd'hui, toutes les entreprises sont obligées de se demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Enfin, voilà.
Après, il faudra peut-être aussi passer dans la révolution de la Startup Nation, la vraie, parce qu'on s'aperçoit par exemple que vous avez une partie des gens du web là, qui sont en train de se battre, et c'est tant mieux, hein, pour acheter des respirateurs traditionnels, 19 000 euros, le respirateur, et de l'autre côté, vous avez des gens qui essaient de fabriquer des choses bon an mal an avec une imprimante 3D à 40 euros, et en utilisant éventuellement même les fameux masques de Décathlon. Donc on est dans une autre façon de penser aussi le futur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des choses très très agiles à un moment précis qui vont nous permettre d'être très réactifs face aux multiples crises qui se présentent, ou est-ce qu'on continue sur les vieilles traditions de l'économie telle qu'elle a été établie depuis 200 ans? C'est une vraie question qui va se poser à mon avis. Hein.
Oui, avec une dimension plus frugale de l'approche de l'innovation, ou des choses qui sont peut-être moins techno-push. Le fantasme Silicon Valley de la technologie va tout résoudre. Peut-être que finalement, on va se rendre compte qu'un pauvre masque de snorkeling de Décathlon avec une imprimante 3D pour pouvoir lui adjoindre un embout respirateur, et ben, ça peut peut-être sauver des vies. Donc c'est assez intéressant à voir.
Bon, dans les idées qui vont revenir, il y a peut-être l'idée de la 6e République, il y a des idées nouvelles, il y a le retour à une forme de souveraineté, en tout cas économique. C'est tout à fait ce que prône Arnaud Montebourg, et on voulait en parler aujourd'hui, l'entrepreneur, le fondateur de la marque Bleu Blanc Ruche, qui fait du miel, évidemment. Attention, du miel made in France, hein, pas du miel de mouche, comme il le dit en Chine. Ancien ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, qui avait été d'ailleurs remplacé, je crois, à un certain temps, par un certain Emmanuel Macron à son poste. Il a fait une interview dans le Figaro. La mondialisation est terminée. On n'en attendait pas moins. Est-ce que vous avez lu cet article-là? Est-ce que raconte Monsieur Montebourg?
Étonnamment, Montebourg est en phase avec la Natixis, et ça, c'est vraiment.
Oui, c'est la rencontre incroyable.
Ou inversement, Natixis est en phase avec Montebourg.
Oui, tout à fait. Montebourg
et avec Mélenchon. Et avec Mélenchon, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, on a une espèce de rencontre des impossibles qui se fait là.
Je suis pas sûr que Mélenchon ait ce côté made in France qui, à mon avis, chez Montebourg, est beaucoup plus apte à séduire plus largement que chez Mélenchon, qui est quand même. Qui est allé dans des niches électorales aujourd'hui, donc il va avoir beaucoup de mal à s'en sortir.
Pour revenir à Montebourg, ce qui est intéressant, c'est que Montebourg, on ne peut pas lui enlever ça. Montebourg a été un défenseur acharné et avancé du positionnement Made in France, etc. On se rappelle de la photo qu'il y avait de lui en marinière tenant un mixeur Moulinex dans les bras. Montebourg est un des rares politiques qui a dit « Bon, bah, écoutez, moi, j'arrête la politique, je vais faire un MBA et je vais aller dans une entreprise. » Donc, il a monté des boîtes. Donc, il a vu ce que c'est. Donc, c'est assez intéressant pour un politique. C'est assez rare en France. Et aujourd'hui, je trouve que son discours est toujours cohérent et ce qu'il a dit. La seule différence, c'est que la vérité ou la réalité, plutôt, est en train de rattraper la vision qu'il avait. Si on part du principe, faisons un peu de prospective politique à deux balles, si on voit que, on va dire que tout le courant macroniste ne marchera pas par la suite parce qu'on ne croira pas au revirement sur l'aile gauche de Macron et de son gouvernement. Si à droite, il continue à y avoir un no man's land et même à gauche, et sans parler des extrêmes, un personnage avec le discours d'un Montebourg pourrait complètement du jour au lendemain être à nouveau tout à fait pertinent dans le paysage politique. Et c'est assez surprenant ce comeback de cette personne qu'on avait laissée un peu pour morte, politiquement parlant.
En même temps, il a quand même deux, trois histoires de casseroles aux fesses. Enfin, des histoires, il y a la jurisprudence Dailymotion, par exemple, qu'on n'oubliera pas de sitôt quand même dans le web, où il a empêché les États-Unis d'acheter Dailymotion, et on a vu que ce fleuron de l'industrie web française est devenu une coquille totalement vide aujourd'hui. C'est quand même terrible face à YouTube. Et donc là, ça lui pèsera sur les épaules, ça, quand même. Hein.
Honnêtement, hein, par rapport à la moyenne des politiques, on ne peut pas dire qu'il est de grosse casserole au cul.
Non.
Et le Dailymotion, le problème n'est pas tant d'avoir empêché qu'un actif comme ça parte à l'étranger. Parce qu'on peut aussi considérer que disposer d'un actif comme Dailymotion ou YouTube, c'est quelque chose de vraiment souverain, hein, pour un État. À côté de ça, Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le faire vivre dans des grosses structures qui l'ont racheté. Je crois que ça appartenait à Orange à l'époque. Et donc, ça a été tué dans l'œuf pour incapacité à gérer ce genre de projet dans des grosses structures. C'est probablement pas dans des grosses structures comme ça qu'il faut le gérer. Et ça, ça fait partie des biais de la politique numérique de Montebourg, en tout cas de ses programmes politiques. Il y a un gros biais, un prisme avec le géant industriel qui va tous nous sauver et devenir un... Et toujours est-il que... Il y a quelque chose de pas forcément idiot et de probablement très impactant à l'avenir sur la Startup Nation en termes de souveraineté, qui est que si le but du jeu de la Startup Nation, c'est de créer des boîtes qui ensuite sont rachetées par les Américains, on se demande quel est l'intérêt du pays, de la nation, à investir dans ces boîtes, en dehors de faire tourner une économie qui n'est pas si héroïste que ça dans l'immédiat en termes d'emploi. Donc on va devoir aussi adapter une Startup Nation à un monde qui va se préoccuper de la souveraineté et qui va être composé d'États-nations et pas de grands marchés mondialisés parce que le virus nous a mis devant la réalité du triste monde. Et ça va forcément impacter l'avenir de l'innovation en France. Clairement, la Startup Nation va devoir complètement se repenser.
Pour revenir à ton point, Bertrand, sur Dailymotion, quelque part, on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas à la fois dire on n'a pas de champion européen et à la fois dire on essaie de garder les quelques-uns qu'on a. Et pour rejoindre ce que disait il y a quelques instants Fabrice, il a bien fait de ne pas le vendre à Yahoo, parce que Yahoo a été vendu ensuite par appartement et découpé par Verizon. Deuxième élément, il voulait le vendre à Microsoft. Bon, ben, on peut comprendre qu'il n'y ait pas de volonté de le vendre à Microsoft. Bon, c'est vrai que ça aurait été un beau champion, peut-être dans l'écurie Microsoft, allez savoir. Dans tous les cas de figure, c'est pas ni Orange ni ensuite Vivendi, qui est aujourd'hui le propriétaire actuel de Dailymotion, qui ont su redévelopper cette boîte. Donc il y a une question à nouveau de logiciel de ces boîtes-là vis-à-vis de ces actifs numériques et de logiciel de l'Europe par rapport à cette notion de numérique, pour parler en particulier de ça. Donc je pense que Montebourg là-dessus, je ne sais pas s'il a changé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que son discours au global aujourd'hui devient plus en phase avec les aspirations du marché ou tout au moins peut-être des citoyens.
Est-ce qu'il existe un unibet pour les paris sur la politique? Parce que là, un ticket Macron-Montebourg en 2022, je crois que là, on peut mettre un petit euro tout de suite. On est richissime si ça passe. Hein. Parce que c'était pas gagné. Là,
la législation nous interdit de jouer à ça, mais il faudrait monter une boîte à Chypre ou un truc comme ça. Et oui, ça doit être faisable.
À Chypre, on doit pouvoir gérer ça. Parce que là, franchement, bon, toi, tu y crois aussi, Damien?
Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus sûr de rien, personnellement, vu ce qui se passe. Mais dans le casting politique actuel, c'est vraiment pas stupide, tout au moins, on va dire, sur la partie gauche, qui aujourd'hui est un no man's land absolu. Je veux dire, sur les cendres du PS, hein. Je pense qu'il y a... C'est un bon candidat, c'est un bon casting qui peut être intéressant à avoir dans son jeu. Oui, moi, je pense qu'on peut miser quelque chose dessus.
Troisième sujet dans ce podcast, on va parler d'astroturfing. Alors, la définition même du terme astroturfing, je la laisse à Fabrice parce que c'est son job. Il connaît par cœur ce genre de truc. Tu nous le fais en une ou deux phrases ?
Alors, l'astroturfing, c'est toutes les techniques, les approches et les technologies qui permettent de faire du faux mouvement de foule sur Internet. Enfin, sur Internet ou ailleurs, d'ailleurs, hein, parce que ça date de bien avant Internet. Hein. Pour la petite histoire, on trouve ça dans Julius César de Shakespeare. Nixon a payé une armée de rédacteurs qui écrivaient des faux courriers des lecteurs à toute la presse américaine pour chanter ses louanges de façon à ce que les médias aient l'impression qu'il avait un soutien populaire. Mais sur Internet, ça a pris des proportions folles. Ça a pris des proportions avec lesquels les Français commencent à se familiariser, qui sont les fameux botnets. Ça a pris les proportions, là aussi les Français sont familiarisés avec ça, de groupes militants qui font du multiprofil et qui vont attaquer un autre groupe militant et provoquer du clash ou essayer d'influencer ou de faire taire des gens. Et puis ça a pris des proportions qui technologiquement sont complètement folles avec Cambridge Analytica, qui est le NEC plus ultra, où là on a des technologies qui sont capables de comprendre qui vous êtes, aussi bien psychologiquement que dans vos orientations politiques ou n'importe quoi, et de vous façonner un message rien que pour vous dans l'intention de vous influencer. C'est dans un sens ou dans un autre. On a toutes ces technologies-là qui ont été développées depuis un bout de temps. Hein, les premiers signes de développement technologique d'astroturfing sur Internet remontent à 12 ans maintenant. Et aujourd'hui, on baigne dedans. On baigne dedans, c'est au point où ça a carrément fait l'objet d'un envoyé spécial qui dénonçait les techniques d'astroturfing de Monsanto sur Internet avec des fausses armées de paysans pro-glyphosate, au milieu duquel, évidemment, il y avait des vrais paysans qui avaient adhéré au mouvement pensant faire partie d'un énorme mouvement. C'est l'un des buts de l'astroturfing. Et en ce moment, ça bat son plein. notamment alors en Italie avec des botnets, mais je vais peut-être te laisser développer sur la situation en Italie plutôt que...
Oui, alors c'est Damien qui nous a alerté là-dessus, enfin qui a vu ça, c'est un média italien qui s'appelle, alors je ne sais pas du tout comment on prononce et je ne vais même pas me lancer dans la prononciation, Fornice, je ne sais pas comment on dit.
Et les Italiens nous pardonneront.
Oui, mais ils sont occupés à autre chose, heureusement, en ce moment, enfin malheureusement pour eux. Et c'est une enquête qui fait le point sur une vaste campagne sur les réseaux sociaux qui vise à parler de l'aide chinoise avec des hashtags. Damien, tu as regardé ça un petit peu de plus près. Ça dit quoi précisément là ?
Bah, ça dit que globalement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, et ça pourrait d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de faire peut-être un sujet pour un prochain podcast, c'est que la Chine est en plein, on va dire, j'appellerais ça marketing social de tout ce qui se passe autour du coronavirus, et que globalement, ils utilisent bien sûr les réseaux sociaux, et notamment l'astroturfing, pour finalement générer du volume autour de certaines requêtes, et notamment autour de certains sujets, sur le côté, nous sommes les héros de la bataille contre le coronavirus, ce qui permet d'évacuer les errements du début, le fait qu'ils ont foutu en tôle les premiers médecins de lanceurs d'alerte qui d'ailleurs sont morts du coronavirus, pour ensuite commencer à nous abreuver de belles images du style « Regardez comment on construit un hôpital en 10 jours, nous sommes trop forts », en passant par « Nous allons aider l'Italie en envoyant des masques parce que vous comprenez, l'Europe, il ne faut pas trop compter dessus ». Et donc aujourd'hui, ils sont véritablement en train d'utiliser les réseaux sociaux et donc les mécaniques d'astroturfing pour pouvoir appuyer au final, au sortir de la crise, le fait de dire bah, « Regardez, nous sommes les héros de tout cela », et bien entendu, en ligne de mire, j'imagine, les États-Unis, pour dire « Regardez comme votre président qui a essayé de nous faire des misères d'un point de vue commercial a géré sa crise alors que nous, bah, nous regardez comme on a été bon ». Bien entendu, en se basant sur des statistiques qui sont uniquement, bien sûr, validées par le parti.
Alors, il y a deux hashtags qui ont été mis en avant, « Forza China Italia ». La moitié serait issue de botnets, donc dirigés par la Chine a priori. En tout cas, c'est ce que dit le média italien. Il y a le hashtag Grazie China qui serait à 37% issu de botnets.
Grazie China, on dit.
Grazie China, ouais, c'est vrai, il faut bien le prononcer. Et puis, alors, il y a une espèce de fausse vidéo, mais elle est vraiment bidon. Hein. Une fausse vidéo d'Italien à leur balcon en train de chanter Merci à la Chine avec un son improbable. Je ne sais pas qui a fait ça, enfin, ça ressemble le bricolage. Mais ils ont essayé quand même. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça, faire croire que les Italiens se mettaient au balcon tous les soirs pour chanter donc les louanges de la Chine et leur dire merci. C'est quand même incroyable. Là.
Oui, mais c'est bien tenté. Je ne suis pas certain, honnêtement, que ce soit le gouvernement chinois qui soit derrière ça. C'est probablement...
Bah là, c'est trop bidon. Ils savent communiquer quand même, hein, franchement.
Ouais. Une boîte de marketing, il y en a plein, des boîtes de pas forcément beaucoup en France, hein, mais il y a plein de boîtes qui sont capables de vous mener ce genre d'opération. Et ce n'est pas nécessairement les Chinois qui sont direct derrière ça, mais c'est un grand classique de la manipulation sur les réseaux sociaux. Je serais étonné qu'on ne trouve pas quelque chose de similaire du côté des Russes qui aussi font de la diplomatie par les masques. À ce stade, j'ai rien vu, mais je ne serais franchement pas étonné que ça existe. Et puis en France, on a des opérations d'astroturfing assez intensives qui prennent part à cet énorme conflit autour de Didier Raoult. Et tous les médecins qui, dans les JT notamment, ouvrent leur gueule et crient sur le gouvernement, et on peut les comprendre, hein, ils sont vraiment sous pression, se font en ce moment complètement harceler par ces équipes riposte plus ou moins improvisées, plus ou moins officielles, qui ont du multiprofil et qui vont tenter de les faire taire, tenter de leur foutre la pression, déterrer tout ce qu'ils peuvent déterrer dans leur passé de façon à essayer de les disqualifier. Et c'est devenu courant finalement, ça s'est installé pendant les Gilets jaunes, c'est devenu quelque chose de quotidien dans l'univers des Gilets jaunes, et maintenant ça commence, ensuite ça allait vers du journalisme. Souvenez-vous, en juin dernier, on avait Samuel Laurent du Monde qui publiait une investigation et qui montrait comment les équipes riposte de La République En Marche s'organisaient pour harceler des journalistes, hein, et des journalistes du Monde. Et puis c'est devenu quelque chose de beaucoup plus courant, et La République En Marche n'est pas le seul à le faire, mais malgré tout, c'est quand même les plus virulents. Là, en ce moment, ils s'attaquent aux médecins. Les médecins qui remettent en question ce que fait le gouvernement sont tous, enfin les grandes figures, hein, je pense, les gens comme Peloux, sont harcelés sur Twitter.
Et on a vu la semaine dernière une petite musique qui commençait à naître très fort là, sur les réseaux sociaux, qui était « Si les gilets jaunes n'avaient pas foutu le bordel jusqu'au mois de février, peut-être que le gouvernement aurait eu le temps de s'occuper des avant de la crise », ce qui était quand même un truc qui a fait long feu pour le coup, puisque faire long feu, c'est ne pas durer, et heureusement. Mais cette petite musique semblait quand même un truc astroturfing à fond les ballons, là, pour le coup. Hein.
Oui, mais c'est un peu l'équivalent moderne de... Il y a 20 ans, on lançait une petite phrase, on voyait ce que ça donne dans les médias, quelle était la réaction du public, et puis on ajuster son programme politique. Mais c'était une séquence qui durait des semaines et on faisait sa petite phrase de façon très réfléchie. Là, non seulement tout le monde se lance dans la petite phrase, mais les expérimentations se font en temps réel. Donc pourquoi pas essayer cet argument? Si ça marche, bon, on le saura rapidement. Si c'est n'importe quoi, on le verra très rapidement aussi. C'est une nouvelle façon de mettre au point ses éléments de langage et de mettre au point son argumentation. On fait n'importe quoi et dans le lot, peut-être qu'il y a des trucs intéressants qui vont sortir.
Et si on terminait avec 2-3 prévisions d'astroturfing possibles dans les semaines qui viennent là, sur des choses, des sorties de crise, des choses comme ça, qui pourraient être vraiment des éléments sortis directement des bottes gouvernementaux ou autres d'ailleurs, hein.
Alors, il va y avoir un sujet assez chaud dans les semaines qui viennent, qui sont les applications de tracking. Parce qu'il faut être honnête, il n'y a pas vraiment de sortie de crise possible, enfin sortie de confinement possible, sans application de tracking. Elle pose une multitude de problèmes et on va dire que tout le monde ne dispose pas du cadre d'analyse pour voir si c'est dangereux ou pas pour la démocratie. Et qu'évidemment, l'occasion faisant larron, traquer la population, c'est clair que la France a un lourd passif depuis maintenant 10 ans sur des systèmes de surveillance de masse. Donc il va vraisemblablement y avoir beaucoup d'astroturfing là-dedans pour, comme avec le professeur Raoult, essayer de disqualifier un camp adverse, mais aussi essayer de brouiller le message. Parce que de toute façon, on n'y échappera pas, hein, soyons clairs.
Sachant qu'il y a une application qui va sortir bientôt, montée par le gouvernement, sur le modèle de celle qui a eu lieu en Asie, qui est en gros de la localisation, mais de pair à pair via une logique de Bluetooth. C'est ce qui est annoncé.
Ça ne t'empêche pas de faire de la transtralisation a posteriori.
Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour aller dans ton sens, Fabrice, effectivement, il y a quelque chose qui est en train d'être préparé. Donc, logiquement, il va y avoir de l'astroturfing et beaucoup de bruit autour de ce truc-là.
Alors, je n'irais pas le qualifier d'astroturfing du tout, hein. Plutôt de tentative d'éléments de langage. Mais moi, j'ai déjà vu dans des conversations là-dessus, des gens sortir l'argument « Oui, mais c'est par Bluetooth, donc ça ne viole pas ta vie privée. » Ce qui dénote, d'une certaine mauvaise foi, parce que ça, l'argument sortait de quelqu'un qui est compétent techniquement parlant, mais ce qui dénote vraiment d'une tentative d'éléments de langage pour rassurer la population en, par exemple, essayant de faire passer le fait que ça passe par Bluetooth, donc c'est sans danger. Le truc est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Et là, je pense qu'il risque d'y avoir des grosses tentatives d'embrouille, parce que, soyons clairs aussi là-dessus, sur cette appli de tracking qu'on va tous, d'une façon ou d'une autre, être obligés d'utiliser, ou être très très contraints à utiliser. Si le virus s'avère saisonnier, c'est-à-dire si c'est en fait comme la grippe et que chaque année on a de nouvelles vagues, même si on a des vaccins qui mettent quand même, qui atténuent énormément l'impact, on risque de se retrouver traqué pendant très très longtemps. Et ça sera assez facile à partir du moment où toute la population a sur elle une espèce de device numérique, de rajouter des restrictions, de par exemple interdire un quartier ou décréter un couvre-feu et le faire appliquer avec la même technologie. Donc on est dans un moment important là-dessus. Je crois que c'est la Corée qui utilise quelque chose d'équivalent à Alicem pour ces applications-là. Enfin, il y a plein d'expérimentations qui sont en train d'avoir lieu un peu partout dans le monde, dans des cultures parfois très très différentes. Donc il faut faire attention de ne pas comparer la France et la Corée, parce qu'il y a une discipline collective et un sens du collectif là-bas qui fait que certaines applications marchent très bien là-bas et ne marcheraient absolument pas ici. Plusieurs applications, il n'y a pas une seule application en Corée, c'est plusieurs applications qui permettent de faire du diagnostic, de la prévention, d'autres du tracking, tout ça, ou d'autres de l'alerte. C'est complexe, c'est très culturel. On n'aura pas la même solution nécessairement que les Allemands. Il y a des problématiques d'unification au niveau européen de ces datas, parce qu'il va bien falloir les échanger. Il va y avoir aussi une grosse embrouille sur l'anonymisation, hein. Donc, gardez en tête tous que un dataset tel que du tracking de population, ça ne peut pas s'anonymiser. C'est pas possible, ça a été montré et démontré. Donc ça, à mon sens, ça va être un gros, gros sujet de guerre informationnelle dans les semaines qui viennent, parce que malgré tout, il faut qu'on impose ça aux populations d'ici 3-4 semaines. Donc on n'a pas le choix, il va falloir... Mais il y a un très haut taux d'acceptabilité, hein. Il y a des études qui viennent de sortir, 80% de la population est prête à se faire traquer.
Pour l'instant, oui. D'autant qu'en termes d'alerte sanitaire, il y a évidemment le coronavirus, mais c'est presque un accident de parcours, entre guillemets, un accident de parcours de la mondialisation. Mais on a de l'autre côté, en Sibérie, il y a des gens qui sont en train de lever, vraiment de lancer des signaux d'alarme là-bas. La fonte accélérée du permafrost qui va libérer des bactéries qui sont là depuis des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'années, et qui ne sont absolument pas recevables par le corps humain. Et on pourrait avoir des épidémies qui naîtraient du retour en vie de ces bactéries qui auraient été congelées en fait, pendant des temps infinis. Et donc le danger sanitaire va être vraiment là, et on va vivre avec ce danger sanitaire maintenant de façon permanente. Donc peut que les lois qui ont été faites là, on se les tape pendant quelques dizaines d'années encore, même si ce ne sera pas à 100%, ce sera une bonne partie d'entre elles, et la surveillance en fera partie très certainement avec des applications. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah bah, traditionnellement en France, hein, quand il y a une situation d'exception, genre l'état d'urgence, hein. Par la suite, et partout, hein, c'est pas propre à la France, on intègre un paquet des dispositifs d'un état d'urgence dans le business as usual très rapidement derrière. Donc c'est clair que typiquement cette application de tracking, je pense qu'elle est là pour durer. Elle est là pour durer et ses fondamentaux vont être définis là maintenant. À l'arrache, dans cet univers Startup Nation, où rappelons-le, ils ne sont pas foutus de mettre en place un système de référendum qui tient la route. Hein. Donc il va y avoir beaucoup de... Je pense qu'on va passer par des phases de ridicule, comme au bon vieux temps d'Adopi, mais on va aussi passer par des choix qui auront des impacts absolument radicaux sur la société française et son avenir. J'insiste, c'est fait par des gens qui sont pas capables de faire ce genre de projection, donc qui vont pas nécessairement penser à mal, mais qui sont vraiment capables de faire des lois, on a vu avec la loi Avia, sans avoir la moindre idée de l'impact que ça peut avoir ou des effets de bord que ça peut générer.
Très clairement, pour revenir au tout début de ce podcast, tout autant les mentalités sont peut-être prêtes à écouter certaines choses pour revoir ou remettre on va dire à plat certaines choses qui paraissaient être actées, mondialisation, internationalisation, etc. etc. Tout autant, je pense qu'il y a l'autre côté de l'histoire qui est que les gens sont plus que jamais prêts à être traqués et à troquer des libertés personnelles dans une volonté d'être sécurisé ou d'avoir, on va dire, la sensation d'être sécurisé ou la promesse qui sera faite par les politiques d'être sécurisé dans un monde qui devient de plus en plus instable et incertain. Et donc, très clairement, il va y avoir une tension entre ces deux, on va dire, tendances. Et ça va nous donner du fil à retordre. Et je pense effectivement que notamment les politiques vont aller dans cette volonté sécuritaire, d'abord parce que c'est politiquement, on va dire, parlant pour les lecteurs. Et puis, deuxième élément, parce qu'ils ne voient pas comment ils peuvent maîtriser le monde autrement. Donc, c'est aussi une sorte de réaction peut-être de l'ancien monde envers un nouveau monde qui est en train d'émerger et dont on ne sait pas trop à quoi il va ressembler.
Bon, allez, un petit hommage quand même pour terminer au président hongrois, Orban. Hein. Lui, il a profité de ça, mais alors fabuleux. Je veux dire, il a fait son coup d'État directement pendant la période de confinement. Et lui, maintenant, il est installé pour trois générations. Hein.
Bien joué. Bravo, Victor. Après, honnêtement, il faut aussi, pour ce qui est de la situation en France, il faut aussi voir qu'en ce moment, l'ambiance est quand même à la colère sourde et contenue parce qu'il y a un confinement. Mais le nombre de classes sociales, de secteurs qui sont en colère et vraiment intensément contre le gouvernement, ça va de la police hein, qui, avec tout le personnel soignant, va être probablement parmi ceux qui vont perdre le plus de gens dans cette épidémie, qui sont en contact en permanent, et la police va certainement payer un très lourd tribut. Donc, ça va être très, très, très compliqué pour le gouvernement de garder la main, maintenant qu'il n'a pas forcément une police aussi complaisante et de son côté. Les lendemains du confinement risquent d'être très, très compliqués, et du coup, c'est vrai que ça incite à traquer la population, parce qu'il y a un effet psychologique qui est très, très important, hein, au-delà de l'effet technique et de l'effet réel. Récemment, il y a des études qui ont montré que les systèmes de reconnaissance faciale à Londres avaient un taux d'erreur de plus de 80%. Donc, pour dire autrement, ça ne sert absolument à rien. Il y a tellement de faux négatifs que vraiment, c'est inutilisable. Mais par contre, c'est très, très efficace dans la lutte contre le coronavirus, justement. Ça s'est testé aussi bien en Chine qu'en Russie, parce que la population croit que ça marche. Et donc, du coup, elle se sent observée en permanent et elle ne déconne pas avec ses confinements parce qu'elle a l'impression que la caméra du coin de la rue va la choper. Et c'est vraiment une fable intéressante sur une technologie qui ne marche pas mais qui produit malgré tout son effet. On va avoir une déferlante de technologie qui va arriver dans les semaines et les mois qui viennent, destinée à théoriquement nous préserver notre santé individuellement et collectivement, mais avec énormément d'effets de bord et avec à l'horizon des choses qui vont très rapidement venir se greffer aux prétextes sanitaires. Il y a plein d'autres prétextes sécuritaires qui seront demain tout aussi valables sur le coup d'une crise ou quoi que ce soit. Donc on va vraiment redéfinir la notion de surveillance là dans les semaines et mois qui viennent. C'était un sujet très théorique et qui finalement n'était pas trop intrusif. Avec Alicem, tout le monde a commencé à regarder les caméras de vidéosurveillance d'un autre œil, et là maintenant on va vraiment accélérer. Ça va aller très très vite.
Bon, bah, je crois qu'on va rester sur cette fin tout à fait optimiste. Hein. Bonne fin pour le podcast des éclaireurs. Bon, merci Fabrice, tu peux retourner en confinement. Merci, merci beaucoup Damien.
Avec plaisir.
Il faut que tu t'occupes de ta fille aussi.
Oui, il faut que j'y aille.
Parce que finalement, voilà, on a aussi des contraintes de vie dans cette période-là. On se retrouve la semaine prochaine et on fera une petite revue de presse, par exemple. Hein, on fait ça ?
Ça marche.
Ça
roule. Allez, bonne semaine. Ciao. Salut à tous.
À la semaine prochaine.